I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Littérature et bière glacée.
Grand Flore Café.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grand Flore Café par Hugues Robert.
Bienvenue dans le Grand Flore Café. Cette semaine, le Grand Contrôle était tout entier placé sous le signe du vélo, de la bicyclette, de la petite reine. Depuis, à travers les vitres du studio d'où on vous parle actuellement, on peut voir une magnifique exposition d'art brut à base de bicyclettes avec des textes décrivant chacune de ces bicyclettes et qui sont absolument passionnants, drôles et poétiques. Et c'est donc avec joie qu'on va consacrer cette émission à la petite reine. On peut parler de grandes boucles, hein, on va parler de Giro, on va parler de danseuse, on va parler de bidon peut-être. Et avec nous, on a la chance d'avoir Alberto Toscano, donc un grand nom de l'écriture sur le cyclisme, et qui a publié il y a quelques mois, en avril 2018, chez Armand Collin, Un vélo contre la barbarie nazie, qui raconte notamment l'histoire, le destin de Gino Bartali. Alors Gino Bartali, Alberto Toscano va en parler infiniment mieux que moi, mais je vous rappelle donc simplement qu'il est décédé il y a maintenant 18 ans, hein, à 85 ans, en 2000. C'est un immense champion italien de l'avant et de l'après Deuxième Guerre mondiale. L'un des rares exemples de coureur qui a gagné des Giro en fait en 36-37 et 10 ans plus tard en 46. Un Tour de France en 38 et 10 ans plus tard en 48. Donc après cette parenthèse de la Deuxième Guerre mondiale qui pour lui a été tout sauf une parenthèse. Et Alberto Toscano va nous dire justement cet immense champion qui est aussi un grand homme.
Buonasera. Écoutez, merci beaucoup de votre invitation. Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a au moins deux raisons pour réfléchir au destin extraordinaire de ce champion et de cet homme. Sur le plan sportif, on est à la fin du Tour de France et on est exactement 70 ans après la victoire historique de Gino Bartali en 48. Je dis historique, pas tellement sur le terrain du cyclisme, bien qu'il ait fait un exploit extraordinaire à cette occasion, mais surtout sur le terrain de l'histoire italienne, de la politique italienne, parce que le Tour de France a coïncidé avec un événement tragique, l'attentat au chef du Parti communiste Palmiro Togliatti, et l'Italie a été dans une phase, dans une spirale de désordre bien compréhensible, parce que les gens ont protesté, parce qu'un néofasciste a essayé de tuer le chef du Parti communiste, et à ce moment, comme par miracle, la victoire de Gino Bartali au Tour de France a quelque part ramené l'Italie dans un contexte plus décontracté. Et le même Palmiro Togliatti, chef du Parti communiste, quand il se réveillait du coma, a demandé « Qu'est-ce qu'a fait Gino Bartali au Tour de France ?» Et il avait gagné. Et donc, ça, c'est la première raison. Le sport, d'ailleurs, c'est aussi les 80 ans de la première victoire de Gino Bartali au Tour en 38. Et la deuxième raison pour laquelle aujourd'hui on devrait s'intéresser un peu plus peut-être à cet homme est le fait qu'on vit dans une Europe, malheureusement, qui traverse une phase difficile de confusion et parfois d'un nationalisme populiste, l'Italie comprise, peut-être à commencer par l'Italie, où on s'interroge de façon très antipathique, parfois bien pire qu'antipathique, sur la convivance civile avec personnes qui ont une autre origine, une autre foi religieuse. Et Gino Bartali, pendant la guerre, a mis sa propre vie en jeu pour aider lui, catholique, vraiment convaincu d'une foi en béton, pour aider, sauver des centaines de juifs qui étaient hébergés, réfugiés dans des couvents et auxquels lui en parcourant des centaines de kilomètres par jour, a procuré des faux papiers qui ont permis à ces persécutés de retrouver la liberté et de toute façon de sauver leur propre vie. Donc, deux bonnes raisons pour s'intéresser aujourd'hui au champion sportif Gino Bartali et aussi à l'homme Gino Bartali.
Ça, c'est une chose assez extraordinaire, en effet, qu'on retrouve bien dans votre ouvrage. C'est d'imaginer Gino Bartali, donc, qui est tout auréolé de cette gloire, bien qu'il n'ait rien fait pour, mais qu'effectivement, le régime de Mussolini a essayé de s'approprier de façon manifeste, voire éhontée, malgré les réticences de Gino Bartali, mais qui ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que gagner des courses. Et donc, tout auréolé de cette gloire, qui est effectivement au cœur de la guerre, au cœur des menaces lourdes de conséquences, on le sait désormais, même si tout le monde ne le savait pas à l'époque, en tout cas, il y avait un doute dans l'air, et que Gino Bartali, donc, profitant de cette gloire, comme vous le racontez, qui continue à faire ses entraînements, à parcourir des centaines de kilomètres en vélo, à passer tous les barrages, avec des faux papiers dissimulés dans les guidons creux en fait, de sa machine, pour aider en fait, à s'en sortir des centaines de personnes qui sinon ont été déportées. Enfin.
Effectivement, la société italienne s'est divisée au moment des persécutions raciales les plus dures pendant l'occupation allemande, commencée le 8 septembre 1943 et terminée dans le nord de l'Italie avec la fin de la guerre. À Florence où Bartali vivait, terminée dans l'été, pendant l'été 1944, mais cette occupation a vu des phénomènes tragiques comme la rafle au ghetto de Rome, de persécution de juifs, et certains évêques, celui de Florence de l'époque, dont le nom est gravé sur le mur de Juste à Jérusalem, à Yad Vashem, avec le nom de l'évêque de Assise, avec le nom de l'évêque de Gênes, avec le nom de Gino Bartali. Certains couvents, proposition de leur évêque, ont hébergé un grand nombre de juifs persécutés et le problème était vraiment les faux papiers. Parce que, aussi dans le cas de contrôle, il fallait que ces personnes disposent de papiers qui légitiment, entre guillemets, bien sûr, leur présence en évitant qu'ils soient déportés. Et Bartali a beaucoup fait pour ça parce que l'imprimerie qui produisait de faux papiers avec un niveau de qualitatif presque artistique, parce que faire des faux papiers n'est pas simple. Et Bartali, à l'allée de Florence, à Assise, où l'imprimerie se trouvait, transportait les photos d'identité pour les faux papiers. Au retour, il transportait les faux papiers réalisés grâce aux photos qu'il avait transportées lors du voyage précédent. C'était une machine pour défier le monstrueux antisémitisme des nazis avec la complicité avérée des fascistes.
Ce qui est frappant, enfin peut-être, et c'est aussi pour ça, je pense que comme vous l'indiquiez, c'est une belle occasion en 2018 de rappeler la figure de Gino Bartali. Il semble, alors c'est une réflexion que je me faisais en fait en parcourant votre ouvrage, que le souvenir en fait de ces grands champions, et particulièrement d'un grand champion qui n'était pas justement uniquement un grand champion sportif, mais un grand être humain, que ce souvenir s'estompe peut-être plus depuis une 10-15 d'années qu'auparavant. Alors est-ce que c'est un effet de génération? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est un peu sur le statut du cyclisme, qui est plus controversé aujourd'hui qu'il ne l'a été?
Je pense que vous avez raison. Il y a un problème du cyclisme en général qui a perdu un peu de popularité, malheureusement, je le souligne malheureusement, en France et en Italie, par rapport au football, un sport qui a été frappé, qui a payé lourdement les cas de dopage. Et en plus, les héros du cyclisme des années passées, y compris ce ramoneur très jeune arrivé à Paris, en France, Duval d'Aoste, et qui a gagné le premier Tour de France en 1903, et qui était un Val d'Autun, Garin, naturalisé français seulement quelques mois plus tôt, sa victoire au Tour de France, le premier Tour de France. C'était des hommes extraordinaires. L'histoire du Tour, l'histoire du Giro d'Italia sont des histoires d'hommes extraordinaires. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on vit dans une machine où la technologie, ou aussi la technologie de l'alimentation, des entraînements, tout est mesuré, tout est scientifique, et l'homme n'est plus au centre du sport. Et ce sport, qui est le sport le plus humain, le plus passionnant, parce qu'il met vraiment... L'équipe existe, mais c'est l'homme, avec son histoire, avec ses émotions, avec sa perception, qui joue un rôle déterminant. Bartali est l'homme Bartali, Coppi est l'homme Coppi, Bobet est l'homme Bobet. C'était des hommes dans le vrai sens du terme, hein, profond, des mensches, comme on dit dans une certaine culture juive allemande. Et des hommes dans le sens le plus profond du terme. On a l'impression qu'aujourd'hui, des champions existent, parfois des grands champions, mais le public ne les voit plus comme des hommes dans le vrai sens du terme. On les voit comme machines parfaites, extraordinaires, pour gagner des courses. Mais c'est autre chose par rapport à ce passé épique du Tour de France et du Giro d'Italia.
Oui, il y a vraiment quelque chose, je pense que le terme est particulièrement adapté, enfin, d'épique et d'épopée, parce que même pour quelqu'un qui s'intéresse, voire qui se passionne hein, pour le cyclisme contemporain, c'est vrai, et c'est pas de, je pense que ce n'est pas de réclamer du spectacle, justement, on n'est pas tout à fait au football, hein, on n'a pas les gens qui vont râler parce qu'il n'y a pas assez de buts, alors qu'un match peut être magnifique, même s'il n'y a pas beaucoup de buts. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on lit des comptes rendus d'étapes, on n'a plus des choses telles que ce que faisait Bartali, ce que faisait Coppi, ce que faisait encore une vingtaine d'années plus tard Antil ou Eddy Merckx, c'est-à-dire des gens qui partent seuls, mettent 18 minutes dans la vue au peloton, franchissent deux cols en tête avec 15 minutes d'avance sur leur premier poursuivant, et puis le lendemain, les positions s'inversent le cas échéant. Y a des choses qui n'existent plus. Alors, effectivement, les gens sont beaucoup, beaucoup plus homogènes. On voit bien qu'il y a quand même des champions qui, malgré les soupçons hein, qui pèsent, y compris sur certains qui, comme on dirait, n'ont pas été attrapés par la patrouille, hein, mais il y a un doute désormais qui pèse même sur certaines performances qui restent, elles, inscrites au tableau. Mais il y a eu des drames, donc en dehors, bon, on l'a mentionné parce que ça a pris du temps et je pense que ça a fait beaucoup de mal hein, au cyclisme de Lance Armstrong, évidemment. Mais il y a eu ensuite des grands champions qui ont été entachés de doute, hein, dont les performances ont été entachées de doute. Et il y a quelque chose qui s'est instillé, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a plus de mal, effectivement, à apprécier les personnes qu'il y a derrière ces champions un peu machiniques.
Voilà, exactement. Et Bartali a su être champion sportif et homme capable de s'engager dans des moments difficiles. Aujourd'hui, on a des grands champions, on a encore des grands champions dans plusieurs sports. Mais c'est cette relation entre l'opinion publique et les champions sportifs qui a changé. Et les champions sportifs sont trop des machines et trop peu des hommes. Vous voyez, et moi, j'étais très déçu par le dopage d'Armstrong. Figurez-vous que j'ai fait, je crois, l'une des premières interviews pour le journal pour lequel je travaillais à l'époque à Armstrong après son cancer. Il a recommencé à courir. Il avait un rôle secondaire dans son équipe, qui était d'ailleurs une équipe française. Je l'ai rencontré, je l'ai interviewé, j'ai longuement parlé avec lui. Et j'ai eu l'impression de voir en lui un symbole de renaissance de quelqu'un qui sortait de la maladie et qui exprimait et que sa victoire était sa guérison. C'était le retour au cyclisme. La victoire du Tour, c'était un plus. Mais sa vraie victoire était d'avoir sauvé sa vie, d'avoir fait ses thérapies de façon continue et sérieuse, et d'avoir pu revenir au sport. C'était ça pour moi. Et je l'ai même écrit dans l'article, dans l'interview que j'ai fait à cette occasion. Et ensuite, il gagne le Tour, il gagne 7 Tours de France, mais quelle merveille. Et ensuite, voir que cette magie d'un homme qui s'est montré qu'on gagne contre la maladie et qu'on gagne le tour. Et ensuite, tout est gâché parce que c'est... J'ai envie de dire un mot vulgaire, mais cette personne n'est pas à la hauteur de son défi, qui n'est pas seulement sportif, qui est humain. On a besoin de redécouvrir une certaine dimension du sport capable de le mettre sur la même longueur d'onde des exigences de la société. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'un espoir sur le Tourmalet. C'est une question d'une relation spéciale, de cette alchimie qui a existé et que j'espère existera encore demain entre le sport, le beau sport, le sport noble, et l'opinion publique qui a des besoins, qui a des passions, qui a envie de vivre des émotions et qui a le droit de ne pas être, que ne se moque pas d'elle. Parce que ce que Armstrong a fait par son dopage a été de violenter les émotions de l'opinion publique.
Alors, je pense aussi à une chose et je reviens en fait un peu par la bande à Gino Bartali parce qu'il me semble aussi, mais c'est une question de perception, hein, que dans la part épique qu'il y a pu avoir longtemps et qui aujourd'hui est un peu en demi-teinte dans le cyclisme, en tout cas le cyclisme des grands tours, hein, il y avait les rivalités sportives, pas nécessairement humaines, mais entre deux champions du moment. Et quand on pense à Gino Bartali, on pense presque fatalement à Fausto Coppi. Et dans cette relation, alors en plus à une époque d'équipe nationale, il y avait effectivement le fait que deux champions qui étaient des rivaux toute l'année dans leurs équipes professionnelles se retrouvaient sous le même maillot italien en fait au moment des championnats des nations, des choses comme ça. Et que c'est quelque chose, enfin vous allez nous en parler, mais j'ai l'impression qu'il y a eu ensuite à partir de cette première des grandes rivalités qu'il y en a eu toute une série qui a duré pendant une bonne vingtaine d'années. Il y a eu Anquetil puis Merckx avec le rôle de Raymond Poulidor qui n'était pas seulement l'éternel numéro 2, qui était aussi un énorme champion, enfin un très grand champion. Il y a eu ensuite, beaucoup plus tard, Hinault Fignon, puis Hinault Le Monde, enfin, des choses qui étaient dramatiques, mais au sens, justement, pas seulement cycliste, au sens aussi humain, c'est de voir ces gens qui sont des rivaux, qui peuvent être amis ou pas. Enfin, et donc, est-ce que vous nous parleriez un peu, justement, de cette relation entre Gino Bartali et Fausto Coppi?
Oui, vous avez cité des noms de grands champions cyclistes et de personnes qu'on admire encore aujourd'hui, les Anquetil, les Merckx, gigantesques coureurs, Eddy Merckx.
Le cannibale.
qui d'ailleurs avait partagé avec Bartali une habitude qui était celle de nettoyer de façon minutieuse et presque maniacale son propre vélo. Et Bartali lavait son vélo dans la baignoire de chez lui. Hein. C'était la relation même avec le vélo était une relation presque fusionnelle de ce grand champion, même Pantani, Merckx et d'autres.
Une relation prudente également, si je peux me permettre, parce que je pense à une anecdote, c'est Bernard Hinault qui a toujours affirmé que sa tendinite qui lui a coûté une participation complète au Tour et presque une année sportive venait du fait que sur la Vuelta, sans qu'il le sache, son vélo avait été abaissé en fait d'un centimètre, sa selle avait été abaissée d'un centimètre, et donc il a couru pendant trois semaines de Vuelta à pas à la bonne hauteur.
Ça lui a coûté cher.
Ça lui a coûté très cher.
Mais effectivement, la relation Bartali-Coppi a été un grand moment de l'histoire d'Italie. C'est l'Italie de l'après-guerre surtout, parce qu'ils se connaissaient, et ils ont rivalisé déjà avant la guerre. Mais leur vraie rivalité est pendant les années 50, entre la fin des années 40 et le début des années 50. C'est une Italie qui a envie de se reconstruire et qui est une Italie qui est à la recherche de mythes et d'idoles. Et Coppi et Bartali sont des idoles parfaits, des mythes parfaits, avec leur élément commun, leur trait commun, qui est cette extraordinaire capacité sportive, et avec leurs différences. Et alors, Coppi arrive à incarner la transgression. C'est l'homme qui a un enfant avec une femme mariée, qui est lui-même étant marié, l'homme qui est condamné par la justice à quelques mois de prison pour adultère. Figurez-vous, qu'est-ce que c'était l'Italie de l'époque. C'est l'Italie... Aujourd'hui, c'était la même chose, les prisons seraient débordantes. Figurez-vous que la mère de l'enfant de Coppi, Faustino Coppi, pour accoucher en pouvoir donner son propre nom à l'enfant, a dû aller en Argentine, accoucher à Buenos Aires. Et c'était une Italie particulière. C'était l'Italie de Don Camillo Pepone, que nous connaissons bien. Et dans cette Italie, c'est une Italie de personnages, de couples de personnages, Don Camillo Pepone, qui sont différents, mais qui sont capables de se rassembler dans les moments du besoin. Bartali et Coppi, qui sont très différents, les très catholiques, Gino Bartali et Coppi, qui devient même au-delà de la réalité, symbole de transgression. Et enfin, évidemment, le chef de la démocratie chrétienne, De Gasperi, le chef du Parti communiste Togliatti. Trois couples de personnages rivaux entre eux, mais capables de se rassembler au moment du besoin du peuple, de la nation, du pays et de la démocratie. Donc, ces trois couples de personnages ont contribué, y compris le couple mythique et bien réel Coppi-Bartali, à amener l'Italie vers son développement et vers le renforcement de sa démocratie et quand même vers la modernité.
Voilà, donc, sous le signe de Gino Bartali, on va poursuivre tout à l'heure cette émission donc, pour le cyclisme. Gino Bartali qui nous montre bien donc le cyclisme très au-delà de son impact en tant que sport en fait a effectivement un impact culturel et en tout cas l'a eu de façon flagrante dans le cas de l'Italie d'après-guerre comme nous le rappelle Alberto Toscano l'a eu vis-à-vis du sauvetage de centaines de personnes durant la Deuxième Guerre mondiale. On va reprendre après une petite pause musicale et je voulais remercier en tout cas Alberto Toscano et vous rappeler donc de vous procurer Le vélo contre la barbarie nazie chez Armand Collin. Merci beaucoup Alberto Toscano.
Merci beaucoup.
À genoux les majorettes. Ces demoiselles au parloir, sonnez, résonnez, musette, à nous de la victoire. Loin les cul-de-jatte, ça court les rues, à la poursuite du monde zombie. Non, y'a pas le feu au QG, non, y'a pas le feu au QG, le feu au QG. Qu'un arrosoir, un tomahawk sur l'armoire. Qu'est-ce que tu fais, mais tu tapines en bourre. Pas du tout, c'est l'arrivée du tour. Pas de minuit, mes lunettes. Rendez-vous les échoirs.
Sur la moire, qu'est-ce qu'il fait, mais tu tapines en
Grande Flore Café. Hugues Robert.
Voilà, ben on est au Grande Flore Café, on continue avec La Petite Reine ce soir. Après cette belle conversation avec Alberto Toscano, et je vous rappelle donc de vous procurer sans hésiter Un vélo contre la barbarie nazie, qui raconte le destin du grand champion italien Gino Bartali, je voulais pendant encore quelques minutes vous parler de quelques ouvrages rapidement qui traitent également de cyclisme et de littérature et de cyclisme. Donc je vais mentionner Paul Fournel, qui est un grand journaliste spécialisé, avec deux de ses ouvrages, il en a écrit plusieurs autres, hein, mais un très beau Besoin de vélo, qui est comme un clin d'œil au fabuleux Besoin de mer de Hervé Hamon, et puis le En queue-t-il tout seul, qui est un très bel hommage à Jacques Anquetil, dont on parlait justement tout à l'heure avec Alberto Toscano. Un autre ouvrage très intéressant, c'est Eric Fotorino, Petit éloge de la bicyclette, et non pas simplement cette fois du cyclisme professionnel. Un ouvrage charmant, un ouvrage malin, un ouvrage drôle. Qu'il faut parcourir absolument. Le polar s'intéresse aussi au monde du cyclisme, et alors pas uniquement pour les sombres affaires de dopage qu'on a été obligé évidemment d'évoquer tout à l'heure avec Alberto Toscano, et j'en citerai deux dans ce domaine, le magnifique 54-13 de Jean-Bernard Puy, donc 54-13, tout le monde aura reconnu un développement, et plutôt un grand développement, et puis également de Jean-Noël Blanc, Le Tour de France n'aura pas lieu, qui là, il y a déjà maintenant plus de 20 ans, se préoccupait des dessous en fait, publicitaires et financiers du Tour de France, bien avant que ça soit la machine que c'est aujourd'hui. Je vais insister sur trois ouvrages plus particulièrement qui sont un petit peu différents parce que ce sont des ouvrages de poètes qui aiment profondément chacun d'entre eux le cyclisme et qui ont une façon de mettre en scène le cyclisme, réel ou imaginaire, particulièrement charmeuse et intéressante. Donc tout d'abord un ouvrage qui est sorti très récemment, Grégory Nicolas, « Là où leurs mains se tiennent ». Donc, qui invente la vie d'un champion imaginaire, d'un grand champion français, qui gagnera le Tour de France donc, 25 ans après Bernard Hinault, dernier français en date à avoir gagné le Tour de France. Grégory Nicolas a fait un ouvrage magnifique, qui est poignant, qui peut-être a su trouver les mots mieux que personne pour décrire, au-delà des joies évidemment du cyclisme, mais également les douleurs en fait, du cyclisme, et notamment les douleurs physiques, les douleurs psychologiques, qui sont tout à fait réelles. Un autre très grand poète, qui est Jacques Josse, nous a gratifié il y a maintenant 4 ans d'un très beau roman qui s'appelle Marco Pantani a débranché la prise, qui évidemment évoque le destin tragique de Marco Pantani, mais ne se limite pas du tout à cela et donne une perspective qui réussit à être tout à fait ludique en fait, sur le cyclisme, y compris le cyclisme dans ses drames et de sport professionnel. Et enfin, je voulais finir avec un grand poète, un grand romancier, quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est un artiste de la langue, quelqu'un qui a inventé sa propre langue au fil de dizaines d'ouvrages, qui s'appelle Christian Prigent, qui est un chroniqueur également spécialisé, qui écrit sur le sport, qui a écrit notamment en 1991 « Six jours sur le Tour », peut-être l'un des plus beaux reportages à chaud sur le Tour de France, mais qui, dans la partie totalement fictive et poétique de son œuvre, où l'on trouve notamment les ouvrages où il met en scène sous le nom de Chino, quelqu'un qui est peut-être Christian Prigent enfant, quand il habitait donc en Bretagne, à Saint-Brieuc. Son dernier ouvrage en date, en 2017, donc l'année dernière, est un recueil de poèmes qui s'appelle « Chino aime le sport » et dans lequel on va retrouver notamment un grand nombre de figures du cyclisme donc, qui ont enchanté la jeunesse de Chino. Alors pas uniquement de cyclisme, hein, il y a aussi d'autres sports, mais le cyclisme s'y taille une belle part et il y a notamment parmi les plus belles pages qu'on peut imaginer sur l'un des premiers grands drames du cyclisme et qui ont alerté sur les problèmes du dopage, qui était la tristement célèbre mort de Roger Simpson dans l'ascension du Mont Ventoux en 1970. Christian Prigent, qui est un artiste de la langue comme on en fait peu, trouve des mots pour parler de cyclisme qui sont sans âge, qui sont beaux, qui pourraient concerner le cyclisme des années 1950 comme celui des années 2000. Et peut-être même celui de 2018. Voilà, donc c'est cet ouvrage qui permettent de franchir ce pont entre le cyclisme, la littérature, l'humanité, comme nous le proposait aussi tout à l'heure Alberto Toscano. Et je pense que ce sont, même pour des gens qui ne sont pas des amateurs de cyclisme, ce sont de très très belles lectures. Et on se retrouvera à présent à la rentrée, puisque c'est les congés estivaux du Grondeflore Café. Et merci beaucoup d'avoir été là ce soir. À bientôt.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.